franceinter.fr.
Vous écoutez France Inter, il est 13h30. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Claire
Servajan. La suite de notre journée spéciale Scorsese.
Oui, on va s'interroger sur l'année 88, l'année de la dernière tentation du Christ.
Bonjour chers écouteurs.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun.
Jésus et le blasphème au cinéma.
La façade porte encore les traces de l'attentat. La dernière tentation du Christ. Une vie de Jésus controversée, projetée sous haute protection. C'est du côté des intégristes et des milieux d'extrême droite qu'est lancée la campagne anti-Scorsese.
C'était en 1988. Des groupes extrémistes tentaient d'empêcher les projections du film de Scorsese. C'était l'apogée d'une séquence d'affrontements juridiques ou physiques qui avait commencé dès 1984. Nous allons raconter aujourd'hui cette période chaude qui s'organise déjà en apparence comme celle qu'on vit aujourd'hui dans les régions et à Paris autour de deux pièces, Castellucci et bientôt Golgotha Picnic. D'un côté, la revendication de la liberté de création et de l'autre, dénonciation en bloc par des activistes d'œuvres aux intentions en fait très différentes et désarroi de croyants qui, se sentant agressés par un monde médiatique indifférent à leur foi, sont tentés eux aussi de se constituer en minorité organisée. Le catholicisme qui a semé tant et tant d'images de Dieu paye peut-être sa libéralité ancienne. L'invité de la marche de l'histoire, François Bosflic, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Dominicain, théologien, historien de l'art, derniers ouvrages parus, Dieu et ses images, la pensée des images aussi, c'est un livre d'entretien, les yeux dans les yeux, ce qu'on va faire aujourd'hui. Vous ne comprenez pas, dites-vous, qu'on puisse être comme ça, pour ou contre les images de Dieu?
Non, parce que comme vous le soulignez, les intentions des œuvres sont tellement diverses qu'il faut voir au cas par cas.
Et il faut voir aussi selon les époques et les lieux du christianisme. Alors, le judaïsme et l'islam recommandent fermement l'interdiction de la représentation de Dieu. Le christianisme a la réputation de semer, je le disais, des images de Dieu. Enfin, ça ne s'est pas fait tout de suite, ça ne s'est pas fait de la même manière en Orient et dans l'Occident où nous sommes.
Et puis, si vous permettez, je corrige un peu votre métaphore. Il n'y a pas eu semaille au sens où les pasteurs, mettons les conciles, auraient, vous voyez, avec des petites graines, répandu ça dans les sillons. Pas du tout.
Il n'y a pas eu de commande ?
Non, il n'y a pas eu de commande. Il n'y a pas eu de programme. Le premier concile qui s'exprime très explicitement sur ces questions d'image, c'est le Quinis Sexte 692. Ensuite, Nicée II 787. Avant, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un besoin d'image qui petit à petit s'exprime, pas tout de suite, à partir de l'époque constantinienne, pour faire très gros, si vous voulez, et qui petit à petit va acquérir au fond ses quartiers de noblesse et être l'objet d'une légitimation de la part des pères qui au fond au départ étaient tous réticents en raison de leur formation plus ou moins platonicienne sur ce sujet.
Mais du côté des chrétiens d'Orient, l'image de Dieu est maniée avec d'infinies précautions, d'autant que l'icône est appelée à devenir un objet de culte.
Oui, elle est beaucoup plus normée qu'en Occident. C'est-à-dire qu'on a contesté que les artistes puissent, au fond, faire jouer leur créativité indépendamment de ce qu'ils estiment être la pensée de l'Église dans la liturgie et les schémas de composition de l'icône. Donc, vous avez d'un côté, en Occident, feu vert à la créativité pour explorer par des lignes et des couleurs la représentation de Dieu, et de l'autre, en Orient, fixation d'un certain nombre de canons.
Je dis que les catholiques ont semé beaucoup, peut-être trop d'images de Dieu, c'est que je vous ai lu et que vous expliquez qu'à partir de la Renaissance et surtout à partir du XVIIIe siècle, là, il y a un tournant, les conventions de représentation sont vidées de leur sens.
Oui, il y a une désaffection globale au siècle des Lumières pour la peinture religieuse qui est complètement submergée par la peinture de genre, les scènes paysannes, les scènes mythologiques, les scènes galantes, etc. Et il y a un effondrement de l'inspiration biblique de l'art en Occident.
C'est la mort culturelle de Dieu, expliquez-vous. Alors, vous vous intéressez à la peinture, vous vous intéressez à la statuaire, on parlera du cinéma un peu plus tard, vous vous intéressez à l'imagerie populaire, à la bande dessinée, vous vous intéressez à l'affiche.
Oui, aussi, à l'occasion.
Parce qu'on va commencer, ça va être la première affaire de notre séquence fin des années 1980, on va commencer par une affiche. En 1984, le jeune Jacques Richard réalise un film dont les personnages sont les animateurs d'un petit groupe sectaire. Moi, ce n'est pas notre sujet. L'idée lui vient de confier une affiche à Bettina Reims, une jeune femme, au sein nu, sur une croix.
Tollé, le père Di Falco, qui à l'époque est monsieur média de l'Église catholique.
Une affiche telle qu'elle, celle-là, elle me blesse parce qu'elle est un peu une agression par rapport au symbole de notre foi, c'est-à-dire un Christ en croix, mais plus encore parce que je sais qu'un grand nombre de chrétiens seront aussi blessés dans leur foi. On ne peut pas tout faire pour faire du fric.
L'affiche par qui le scandale était arrivé ne sera plus visible. Ainsi en a décidé le tribunal de Paris. Il ordonne que toutes les affiches du film Ave Maria soient retirées des murs. Sur cette affiche, on pouvait voir une jeune fille au sein nu, crucifiée dans la position du Christ. Ce sont les organisations catholiques qui avaient porté plainte. Le tribunal estime que la représentation du symbole de la croix, dans des conditions de publicité tapageuse, constituait une agression pour la croyance de ceux qui circulent librement sur la voie publique. Les catholiques, eux, avaient parlé de blasphème. En tout cas, ils ont gagné et la religion a été plus forte que la pub.
Enfin, les catholiques, des catholiques, on fera les distinctions. Elles vont apparaître toujours les mêmes dans chacune des affaires qu'on va observer. Le mot blasphème, alors, le mot blasphème, il n'a pas le même sens dans le vocabulaire juridique et dans le vocabulaire religieux. Il n'y a plus de blasphème dans le vocabulaire juridique en France depuis la Troisième République.
Ça disparaît du droit pénal de la plupart des États. Bon, et de fait, il ne reste plus que quelques résidus, comme en Alsace-Lorraine, la province où j'enseigne à l'université. Il y a un délit de blasphème, 3000 euros pour ceux qui le commettent. Bon, mais il n'est jamais appliqué. Oui, bon. Mais sinon, le blasphème, oui, disparaît du droit pénal.
Et pourtant, il n'est plus là dans la loi de 1881. Et pourtant, c'est la haute époque de la caricature par affiche ou par dessin anticlérical en France.
Hein. Oui, ce qui prouve d'ailleurs que, d'une part, la loi devient très difficile à appliquer, et d'autre part, que le blasphème, si on l'étend à toutes les caricatures anticléricales, anti-ecclésiales, etc., c'est tout simplement pas tenable, si vous voulez. On ne peut pas répartir cette notion qui, au départ, vise langage injurieux ciblant Dieu, vous voyez. C'est ça le sens du blasphème. Il y a une petite... on peut parler latin sur France Inter,
si vous traduisez François Bostig, locutio
injuriosa de Deo.
Ce qui veut dire.
Ce qui veut dire parler de manière injurieuse de Dieu.
Mais là, on ne parle pas de Dieu dans cette affiche de
Bettina Reims. Justement, on ne parle pas de Dieu. On parle de Marie et je me permets de faire observer qu'il y a 140 ans qu'en Europe, la croix, la personne humaine, homme ou femme, mise en croix pour dénoncer quelque chose ou annoncer quelque chose ou attirer l'attention, se pratique. Les premières photographies de femmes nues en croix datent des débuts de la photographie. Bon. Alors, Félicien Robs, un artiste belge, en 1870, peint une femme en croix pour la tentation de Saint-Antoine, etc. C'est une très vieille histoire, vous comprenez, c'est ça qui m'amuse, c'est qu'avec un peu de recul, on s'aperçoit d'une chose, c'est que la croix devient une métaphore de l'humanité maltraitée. C'est tout.
Alors là, on parlait de l'affiche. On entend votre point de vue. Je vais vous faire parler des images filmées maintenant. Oui. Deuxième affaire, début 85, cette fois dans la foulée de l'affiche d'Ave Maria. C'est le film de Jean-Luc Godard. Alors, vous nous donniez des dates où on voyait en photo des femmes nues. Vous savez, François Bostig, de quand date la première représentation filmée de Jésus-Christ ?
Oui, je crois que c'est de la fin du 19e siècle.
C'est les Frères Lumière.
Mais oui, les Frères Lumière. Et les films qui ont Jésus comme vedette principale, si j'ose dire, en tout cas comme sujet, vont se multiplier. Je ne sais pas à combien on en est. Mais j'étais récemment interviewé sur un film, The Manger of the Cross, la mangeoire de la croix. Bon, c'est un film qui date de 1912 et qui est déjà très élaboré, qui a été filmé en Palestine, vous voyez. Bon, alors Jésus, c'est un archi-sujet de l'histoire du cinéma. Henri Hagel avait fait un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle Le Christ à l'écran. Oui.
Enfin, il y a un certain temps.
Oui, il y a un certain temps.
On le trouve sur la bibliographie de notre site. Là, le film qui va nous retenir, le film de Godard, Je vous salue Marie, ne se passe pas en Palestine. Le lieu d'évocation est décalé. Il y a, en guise de Joseph, un chauffeur de taxi. Il a même été question de le faire interpréter par Bernard-Henri Lévy. Et puis, ça a été finalement Thierry Rhodes. Quant à Marie, qui est enceinte, elle est fille de pompiste. Et puis on retrouve, ça va être une figure familière peut-être de notre émission, notre ami Patrice Bertin.
Elle est suisse, elle habite Genève, elle joue au basket, elle porte des culottes en coton et elle s'appelle Marie. De qui s'agit-il ? De la Vierge Marie, telle que la voit Jean-Luc Godard dans son dernier film « Je vous salue Marie ».
Pourquoi tu dis pas que t'as rencontré d'autres hommes ? Ça simplifierait. Il vient bien quelque part cet enfant.
Pourquoi depuis 2 ans je peux jamais te toucher ? Je suis sûr de coucher avec des autres. C'est impossible autrement. J'espère qu'ils ont des grosses queues au moins.
Le film est sorti hier Et déjà, deux associations, l'Alliance Générale contre le Racisme et pour le Respect de l'Identité Française et Chrétienne, et la Confédération Nationale des Associations Catholiques, demandent l'interdiction pure et simple du film. D'autre part, le maire de Versailles, André Damien, a signé un arrêté qui interdit la projection du film dans sa ville. Cette interdiction fait suite à la projection du film en avant-première, avant-hier soir. Il y a eu dans la salle des échanges de coups et des propos aigre-doux, au point que les policiers de Versailles ont même dû intervenir.
Alors évidemment, on a un peu resserré dans le choix des extraits, mais c'est notre intérêt, à nous, médias, de théâtraliser, bien sûr, et de simplifier. Faut pas trop le faire, néanmoins. Bon, c'est parfois, j'ai l'impression que les médias pourraient contribuer, si vous voulez, à une espèce de skis de l'opinion publique. Bon, mais vous voyez, cette histoire-là m'inspire deux réflexions, si vous permettez. Premièrement, les thèmes majeurs du christianisme, en particulier le thème de l'incarnation, continue de travailler l'imagination des créateurs, et je ne vois pas en quoi le christianisme devrait en être offusqué, bien au contraire. Bon, et un type comme Godard, on voit bien l'idée de maternité virginale, ça l'intéresse d'y réfléchir. Bon, et ça prouve qu'au fond, il y voit aussi une sorte d'entrée dans le mystère du couple et de la paternité. Deuxièmement, cette histoire m'inspire une autre réflexion, c'est que au fond, le contrôle de la capacité d'inspiration culturelle du christianisme n'est plus possible par les instances ecclésiastiques, ni même par aucun collectif de croyants. Bon, et ça, d'une certaine manière, il faut que le christianisme l'admette. Il est rentré dans une phase où il fait partie de l'héritage culturel. Tout le monde peut bricoler avec cet héritage et au fond, ça n'est pas forcément tragique. Je voudrais pas avoir l'air de trop relativiser, mais bon, je trouve ça bien.
Alors, ne simplifions pas trop, c'est votre recommandation. Chez les catholiques, il y avait, devant ce film, des tendances diverses. Dans un premier temps, au moins, la croix soutient le film. Et puis, voici ici un responsable de l'Office catholique du cinéma. Alors, évidemment, quand de temps en temps, les figures du christianisme qui sont passées hors champ, elles sont de nouveau dans le cadre. Oui. Ça l'intéresse, Gérard Pangon.
Godard est un spécialiste pour faire surgir l'inconscient lorsqu'il y a une histoire que les gens ont depuis longtemps ancrée dans leur conscient. Alors là, il s'attaque à une histoire qui est presque devenue mythique, celle de Marie et de Joseph. Or, il y a un certain nombre de catholiques qui ne sont pas prêts à ce qu'on leur montre l'autre face, peut-être, de cette histoire de Marie et de Joseph. Quand on leur montre ça, ils réagissent violemment. Ceci étant, je crois que l'intérêt de ce film, que personnellement je trouve un très beau film, c'est de susciter la réflexion, même si c'est un film difficile, même si c'est un film qui peut blesser, qui peut choquer certaines personnes, il suscite la réflexion.
Il y a certaines scènes dans le film, des scènes où l'on voit Marie nue, qui choquent les chrétiens. Comment est-ce que vous pouvez justifier ça auprès d'eux ?
On pense par exemple à la scène de l'affiche, qui est peut-être une des plus belles scènes du film, et qui justement est l'inverse de ce qu'on peut croire.
Là, pour ceux qui n'ont pas vu le film, cette scène de l'affiche, c'est la scène où on voit le ventre de Marie.
On voit le ventre de Marie et on voit surtout une main qui se refuse à la toucher, parce que Marie plaide, et le film en ce sens-là est un film en faveur de la pureté, Marie plaide pour l'amour créateur sans possession, sans le toucher, c'est-à-dire l'amour pur.
Bon, le point de vue qui vient d'être développé, je le fais volontiers mien, vous voyez. Ce qui me plaît, si vous voulez, c'est qu'il est capable de dire que ce film fait réfléchir. Bon, je crois que c'est un critère qu'on devrait plus souvent retenir. Est-ce que c'est pensant ? Est-ce que ça fait penser ? Oui, dans le cas du film de Godard. Bon. Par ailleurs, ce qui me plaît aussi, c'est qu'il ne se présente pas comme le représentant de tous les chrétiens qui sont offusqués. Bon, qu'il y ait des chrétiens qui soient un peu blessés, si vous voulez, dans leur sensibilité, je crois qu'il faut le reconnaître. On n'abolira pas, si vous voulez, par décret, le fait que des chrétiens se sentent offensés. Ça, aucun gouvernement ne le peut. Bon, par conséquent, bon, les gens qui sont blessables, souvent les simples, hélas, trouvent trop souvent des clercs qui prétendent qu'ils les représentent. Vous voyez, bon, ça devient énervant. Et Gérard Pangon ne tombe pas dans ce travers.
Vous n'êtes pas un militant de l'honneur de Dieu, je comprends bien, François Bosluc. Dans le film de Godard, qui portait en fait sur l'enfance du Christ, à la fin, le petit Jésus, c'est comme dans les évangiles supplémentaires, les évangiles non reconnus, les apocryphes, et ben il finit par s'échapper de la tutelle de son papa. Fin de notre moment, je vous salue Marie. Et on va enchaîner sur le film de Scorsese qui, lui, porte sur la vie publique du Christ.
Un jour, tu sais, peut-être que celui qui est ton père t'abandonnera.
Regarde-moi.
Je suis celui qui est.
Allez, pas d'histoire, monte derrière.
Non.
Nom de Dieu, va voir ça.
Non, arrête. Arrête! Il reviendra!
Quand?
À Pâques. Ou à la Trinité.
Le 22 octobre 88, un engin incendiaire artisanal explose dans une salle du cinéma Saint-Michel où est projetée la dernière tentation du Christ. 13 personnes sont blessées dans l'attentat, dont plusieurs grièvement.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Jésus, le blasphème au cinéma. On en vient maintenant à 1988, la dernière tentation du Christ. Le scénario est d'un calviniste. Et la musique de Peter Gabriel. Je dis 88, en fait, c'est dès 85, tout de suite après Je vous salue Marie, que les pressions ont commencé, d'abord aux États-Unis pour empêcher le tournage, en France aussi pour empêcher le tournage, qu'on envisage en Égypte, qu'on envisage en Tunisie, et qui a finalement lieu, serait-ce encore possible aujourd'hui, au Maroc, avec très peu de moyens. Le film, François Bosluc, vous êtes notre invité, théologien, dominicain, historien de l'art, est inspiré du livre de Nikos Kazantzakis.
Que j'ai lu, que j'ai aimé, on a le droit de le dire, vous voyez. Et j'ai trouvé ça très touchant parce que je sortais, moi, de mes études de théologie et j'ai vu, au fond, présenter de façon narrative un problème très complexe, c'est de savoir si Jésus savait qui il était. Alors évidemment, c'est une position qui n'a pas, qui ne fait pas l'unanimité parmi les théologiens, mais j'ai trouvé ça très remarquable et ça m'a passionné.
Jésus ne sait pas qui il est faible, il est pris de doute. Et alors, première séquence.
Il n'est pas comme l'enfant apocryphe qu'on a cité, qui dit « je suis qui je suis ».
Non, là, il ne sait pas qui il est.
Il ne sait pas.
Et il va choisir comme mentor, c'est un petit peu étrange, ce n'est pas le rôle qu'on donne à ce personnage d'habitude. Judas, qui lui reproche justement de ne pas en savoir assez, voire d'être un collaborateur, parce que Jésus construit des croix pour le compte des Romains.
Qu'est-ce que tu feras pour expier tes péchés ?
Je donnerai ma vie, Judas. J'ai rien d'autre à donner.
Donner ta vie ? Comment ?
Je t'en prie, Judas. Je sais rien, je sais rien.
Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as ?
Je me bats sans arrêt.
Contre qui ?
J'en sais rien, je me bats, c'est tout.
Non. Non. Moi, je me bats. Toi, tu collabores.
Tu déshonores ! Ils ne trouvent personne ici pour fabriquer leur croix ! Personne ! Et toi, tu le fais ? Tu es encore pire qu'eux ! Tu es un juif qui tue d'autres juifs ! Tu n'es qu'un lâche !
Mais Dieu est Dieu, nom de Dieu. Comment peut-on, dans une image, représenter un Dieu qui peine à s'imaginer Dieu ?
Si on est persuadé que Dieu s'est vraiment fait homme, la question qui se pose, si vous voulez, c'est de savoir si s'est fait homme au point que Dieu fait homme a connu le doute, des étapes dans la conscience qu'il avait de lui-même, des tentations, et c'est ce que le film de Scorsese, au fond, nous présente de façon assez vivante, et en tout cas de façon pensante. Si on reprend notre critère de tout à l'heure, est-ce que c'est un film qui fait penser ? Oui, bien sûr, de ce point de vue-là, il est très intéressant parce qu'il montre un Jésus qui n'est pas sûr de soi, qui découvre progressivement, avec effarement d'ailleurs, la mission que Dieu lui confie, et qui, au dernier moment, a encore des fantasmes, au sens où nous avons tous des fantasmes. Moi, ça m'intéresse, ça me fait réfléchir.
Dites-moi, les tentations représentées d'une manière vivante, surtout quand le remontage a lieu grâce à notre réalisateur Jacques Sigal. Ça donne ceci. Jésus va éconduire Marie-Madeleine, autre grand personnage du film.
Je regrette, Madeleine, mais je ne peux pas rester.
Si mal de partager la chambre d'une prostituée. Oh, je ne te toucherai pas, c'est promis, tu resteras vierge pour le désert.
Écoute, Madeleine, Dieu peut sauver ton âme.
Il m'a déjà brisé le cœur le jour où il nous a séparés. Dieu et toi, vous me faites horreur.
Déteste-moi, blâme-moi, ce sont mes fautes, mais pas celles de Dieu. N'adresse aucun reproche à Dieu.
Qui m'a inspiré ces sentiments contre Dieu ?
Je sais, je suis venu pour ça. Je suis venu ici pour obtenir ton pardon.
Et si t'as besoin de miséricorde, pourquoi tu viens la chercher ici ?
Excuse-moi, c'est parce que je...
Mais sors d'ici, va-t'en ! pas différent des autres, mais tu refuses de l'admettre. Tu me fais pitié. Je te hais. Voilà mon corps. Sauve-le. Sauve-le. Ah ! C'est comme ça que tu montres que t'es un homme ! Tourne-toi, me regarde pas. Tu as jamais eu le courage d'être un homme. Me regarde pas ! Tu t'es toujours accroché à ta mère ou à moi. Là, tu t'accroches à Dieu. Tu vas te cacher dans le désert parce que tu as peur. Eh bien, va !
Oui, cet extrait pose bien le problème qu'on aborde, mais beaucoup trop rarement en théologie, savoir si Dieu s'est fait homme seulement ou s'il s'est fait mâle. Vous comprenez ? Et qu'est-ce qu'on a à dire en théologie chez les chrétiens de la virilité de Jésus ? Pourquoi il ne s'est pas fait femme, au fait ? Bon, est-ce qu'une femme ne pouvait pas sauver le genre humain ? Est-ce qu'une femme ne pouvait pas être crucifiée ? Et je trouve que ce genre de film, au fond, s'aventure, j'ose dire assez courageusement, de manière sans doute tendancieuse et de manière évidemment tout à fait fictive, puisque jamais les évangiles, aucun passage ne soutient ce genre de séquence, si vous voulez. Mais ils s'aventurent courageusement vers des questions qui sont de réelles questions, de savoir quelle est la place de la masculinité de Jésus dans la doctrine chrétienne du salut.
Mais alors, sur la croix, il faut représenter Jésus nu ?
Ah, pour des raisons de décence, ça a été exclu très très vite, bien que l'on sache maintenant avec quasi certitude que les Romains dénudaient complètement leurs suppliciés pour les humilier encore un peu plus, vous voyez. Bon, et là, ça a été exclu tout simplement parce que bon, un crucifix complètement nu dans les églises, on a trouvé que c'était pas tellement opportun.
Mais chez Kazantzaki, qui est l'inspirateur de Scorsese pour La Dernière Tentation du Christ, il y a trois crucifixions pour le prix d'une. La crucifixion, représentation particulièrement difficile, pas seulement pour le détail que j'indiquais.
Oui, c'est un problème d'ailleurs sur lequel moi j'ai envie maintenant de réfléchir, si vous voulez, de façon courte, de façon très développée et sur la très longue durée, parce que c'est un problème récurrent de l'art chrétien, de savoir exactement comment concilier au fond les exigences du réalisme. On peut pas travestir ce supplice. Il est effroyablement cruel et il est humiliant. Bon. Et en même temps, les exigences du dogme chrétien qui veulent qu'au fond, c'est dans ce concentrer plaigné à la souffrance qu'il a ressentie sur la croix, que Jésus triomphe au fond et qu'il est le rédempteur du monde. Alors évidemment, c'est la croix et la bannière, si j'ose dire, d'unir les deux à la fois intellectuellement et esthétiquement. Bon, alors ça a donné, il y a eu différentes réponses. D'ailleurs, aucune ne s'est imposée dans l'église catholique, si vous voulez, ou dans l'église occidentale. L'église n'a jamais dit aux artistes, vous ne ferez plus que des crucifix de ce type-ci et l'exclusion de tous les autres. Jamais.
Je reviens à notre séquence. Nous sommes en 1988. Le film va susciter des protestations. Vous comprenez qu'il est assez compliqué d'expliquer comme vous le faites. Ce sont les propos qui ne peuvent être compris que par des spirituels. Le point de vue est qu'il est en revanche beaucoup plus aisé d'aller droit contre. Ce que fait d'ailleurs même la hiérarchie catholique au moment de 1988.
Oui, ben, je crois que vous avez tout à fait raison. Simplement, moi, je ne peux pas me sentir, si vous voulez, dégagé, exonéré d'une espèce de tâche de pédagogie sur la longue durée. Je plaide depuis des années pour que dans l'Église, il y ait beaucoup plus de pédagogie intelligente de l'histoire des images, parce qu'elles font partie du passé chrétien. Nos pères, nos grands-pères, nos aïeux ont prié devant ces images. Il nous faut nous les réapproprier et les comprendre pour ce qu'elles sont.
Les conditions du tournage de La Dernière Tentation avaient été très malaisées. Les conditions de projection le sont particulièrement en France.
Depuis le début de l'été, une campagne internationale se déchaîne contre le film de Martin Scorsese.
Les fidèles des comités chrétiens Solidarité se rassemblent à l'appel de Bernard Anthony, député européen du Front National. Veillée d'adoration et de réparation au Sacré-Cœur à Paris pour les associations familiales catholiques. Dans le même temps, les services de police recensent 50 attentats contre des salles de cinéma.
Quand le feu éclate vers minuit et quart, les spectateurs du film de Scorsese commencent à sortir. Un siège aurait été découpé, imbibé d'essence et projeté en flammes dans l'escalier. Quand l'escalier s'embrase, il reste 18 spectateurs dans les deux salles du Saint-Michel et la fumée intoxique les premiers policiers venus à leur secours. 13 personnes sont intoxiquées par la fumée. Ce soir, 6 d'entre elles sont encore hospitalisées, dont 2 policiers. Un homme de 43 ans dans un état grave est soigné en réanimation.
L'incendie fait suite à une longue série d'actes criminels perpétrés par des jeunes traditionalistes contre des salles de Paris et de province. Au Gaumont, Champs-Élysées, la sécurité a été renforcée. C'est en effet maintenant le dernier cinéma parisien à diffuser le film.
L'incendie, c'était en octobre 1988. Le blessé grave dont il était question ne passera pas loin de la mort. Il restera lourdement handicapé, comme le dit le cardinal Lustiger. Alors, archevêque de Paris, il ne faut pas réparer une injustice qui aurait été la projection du film de Scorsese par une autre injustice, ces manifestations violentes.
Je suis plus que d'accord, vous l'aurez compris. Je trouve ça même odieux que l'on puisse remplacer le débat, la discussion, voire la critique, parce que je suis pour parfois s'exprimer de manière beaucoup plus rude sur des pièces qui prétendent par provocation être des pièces pensantes, mais la provocation n'a jamais remplacé la pensée. Donc allons-y pour la critique, mais la casse, jamais. Non.
Pourquoi cette réflexion, cette réaction si violente, réaction qui n'est pas réflexion en France ? Est-ce qu'il y a des très spécifiquement français ?
Je pense qu'il y a plusieurs causes qui facilitent ce genre d'excès violent. La première, c'est que d'abord, c'est un aveu de faiblesse. Vous comprenez ? On va casser quand on ne sait pas quoi dire ou quand on n'a pas de quoi argumenter et convaincre l'opinion publique. Bon, alors du coup, on casse, mais c'est un aveu de faiblesse. Pourquoi casse-t-on ? C'est aussi parce que la discussion, à mon avis, en France, est un peu somnolente au sujet de toutes ces affaires-là. Bon, je dis bien la discussion, pas l'échange d'invectives. Vous voyez, moi, je plaide pour qu'il y ait des tribunes et des lieux où l'on puisse vraiment discuter le bout de gras, mais de manière approfondie. Et pas simplement en 10 minutes ou en 3 minutes de manière approfondie. Il n'y a pas de ça. Troisièmement, je crois que la France est la victime du fait qu'elle s'est constituée en capitale de l'injure antireligieuse depuis la Commune, 1870, et que, si vous voulez, beaucoup de choses ont été possibles en France qui étaient absolument impensables aux États-Unis, en Angleterre, pensables en Belgique, en Allemagne et bientôt en Italie. Mais vous voyez ce que je veux dire. Alors maintenant,
ça veut dire que les laïcs très laïcistes, on pense aux caricatures du début de la Troisième République, mais aussi à celles d'aujourd'hui, ont une dette si forte vis-à-vis du christianisme qu'ils ne peuvent pas la reconnaître. Alors donc, ils sont dans le contentieux.
Ils sont dans le contentieux parce que de fait, le sens de la personne, le goût du débat, l'égalité. Je vais peut-être surprendre les auditeurs, mais enfin, comprenez. Quand on regarde ce qui se passe sur d'autres continents, on se dit quand même que le christianisme a prodigieusement contribué à l'idée que la femme est l'égale de l'homme, foncièrement. Bon, alors de tout cela, les laïcistes savent qu'ils sont redevables au christianisme. C'est énervant du point de vue édipien.
Merci à vous, François Bosflug. Vos deux récents livres chez Bayard, et la conclusion, elle est ouverte. Comme dans toute conversation, l'homme est producteur d'images. On n'en a jamais fini avec les images et les polémiques différentes qu'on a amalgamées autour de la pièce de Castellucci et demain autour de Golgotha Picnic. Le prouve notre journée. Scorsese va continuer. 16h, Frédéric Clodéon, la musique des films de Scorsese. 17h, François Bunel et encore à 18h, Philippe Collin. Jacques Sigal, la préparation Meryl Moneghetti, Franck Olivard, Frédéric Martin, la technique Éric Morin et Guillaume Roux. Demain, nous parlerons de Frantz Fanon.